Chapitre 6. Négociations à Terrilville. Le toit du bâtiment du conseil avait disparu. Les Chalcédiens avaient achevé ce que les nouveaux marchands avaient commencé. Ronica se fraya un chemin à travers les décombres noircis. Le toit avait continué de brûler après s'être effondré, et les murs étaient striés de suie et de fumée. Les tapisseries et les bannières qui avaient orné la salle pendaient en lambeaux calcinés. Par endroits demeuraient quelques poutres carbonisées. Au-dessus des gens rassemblés en cet après-midi, le ciel était menaçant et gris. Pourtant, les marchands avaient tenu avec obstination à se réunir dans ce lieu qui ne pouvait plus les abriter désormais. Ce qui, selon Ronica, en disait long sur la légendaire ténacité des marchands. On avait poussé sur le côté les restes de poutres qu'on enjambait ainsi que les divers débris. Les résidus de bois charbonneux craquaient sous les pas et l'odeur de cendres humides s'élevait dans les remous de la foule. Le feu avait dévoré aussi la plupart des tables et des bancs. Il restait quelques chaises roussies, mais Ronica doutait de leur solidité. Chose curieuse, on se sentait tous égaux à se tenir ainsi debout, les uns à côté des autres. Premiers, nouveaux marchands, tatoués, pêcheurs musclés, commerçants et serviteurs, tous avec leurs amis et leurs proches. Ils remplissaient la salle et débordaient au dehors, assis sur les marches ou groupés aux alentours. Malgré leurs origines diverses, on constatait une singulière ressemblance entre ces gens. Sur les visages se lisait l'effarement, la désolation après l'invasion des Chalcédiens et le chaos qu'elle avait provoqué. La bataille et le feu les avaient frappés indistinctement, depuis le plus riche des marchands jusqu'au plus humble des marmitons esclaves. Leurs vêtements étaient maculés de suie ou de sang, parfois des deux. La plupart étaient débraillés. Les enfants se blottissaient à côté de leurs parents ou voisins. On portait ostensiblement des armes, on parlait bas et surtout du dragon.
« Il a soufflé sur eux et ils ont fondu comme des chandelles.
Il leur a fracassé le crâne d'un seul coup de queue.
« Même les Chalcédiens ne méritent pas de mourir comme ça. »«
Ah ouais, ils méritent de mourir de toutes les façons. »«
Le dragon est une bénédiction envoyée par ça pour nous sauver. On devrait préparer des offrandes d'action de grâce. »
Beaucoup restaient silencieux, les yeux rivés à l'estrade de pierre qui avait subsisté et où devaient prendre place les chefs de chaque groupe. Cérille était là, représentant Jamélia, avec près d'elle un roadkern farouche. En le voyant sur l'estrade, Ronica serra les dents, mais elle se força à ne pas le dévisager. Elle avait espéré que Seri rompît avec lui, après sa malencontreuse attaque contre les nouveaux marchands. Était-elle insensée à ce point? La compagne se tenait les yeux baissés, comme plongée dans une profonde réflexion. Bien plus élégante que les autres, elle était vêtue d'une robe blanche, longue et souple, ornée de cordons noués dorés. Les cendres et la suie en avaient souillé l'ourlet. Malgré les manches et l'épaisse cape de laine, elle avait les bras croisés comme si elle avait froid. Pelé Kelter était aussi sur l'estrade, et aujourd'hui le sang qui éclaboussait sa grossière vareuse de pêcheur n'était pas du sang de poisson. Une femme fortement charpentée avec des tatouages sur la joue et le cou se tenait à ses côtés. Dougia, chef des tatoués, portait des pantalons déchirés et une tunique rapiécée. Ses pieds nus étaient sales. Un bandage sommaire autour de son avant-bras témoignait qu'elle avait été au cœur de la bataille. Les marchands de Voucher, Connery et Drure représentaient le conseil de Terrilville. Ronica ne savait pas s'ils étaient les survivants des chefs du conseil ou les seuls qui aient la témérité de déplaire à Cairn et ses affidés. Ils se tenaient très à l'écart de Seri et de Rhodes. Au moins cette séparation-là était-elle bien établie. Minxley représentait les nouveaux marchands.
Son gilet richement brodé n'était plus de la première fraîcheur, loin s'en fallait.
Il était à l'extrême opposé de la femme esclave et évitait son regard. Ronica avait entendu dire que Dougia n'avait pas eu la vie facile quand elle était à son service et qu'il avait de bonnes raisons de la redouter. Assis au bord de l'estrade, les jambes pendantes, singulièrement calmes, le petit-fils de Ronica, Seldon. Ses yeux erraient sur la foule avec une expression soucieuse. Seul Minxley avait osé contester son droit d'être là. Seldon l'avait regardé bien en face.
« Je parlerai pour nous tous quand le dragon reviendra », avait-il déclaré. « Et si besoin est, je parlerai pour le dragon. Il faut que je sois là pour qu'il me voie au-dessus de la foule.
Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va venir ici ? Avait demandé Mingsley. Seldon avait eu un sourire éthéré.
Oh, il viendra, ne craignez rien,
avait-il répondu en clignant lentement les yeux.
Il dort maintenant, il a le ventre plein.
Quand il souriait, les écailles argentées sur ses joues se plissaient et brillaient. Mingsley avait écarquillé les yeux puis avait reculé.
Ronica avait la sinistre impression de discerner un reflet bleu sous les lèvres gercées de son petit-fils. Comment avait-il pu changer à ce point en si peu de temps?
Tout aussi déconcertant, peut-être, était le plaisir immodéré qu'il trouvait à ces changements. Yannir Houprous, qui représentait le désert des pluies, se tenait derrière Seldon dans une attitude protectrice. Ronica était contente qu'elle soit là, mais s'interrogeait sur ses intentions. Réclamerait-elle le dernier héritier de la famille Vestrit pour l'emmener à Troynous? Pourtant, s'il restait à Terrilville, quelle y serait donc sa place?
Kefria se trouvait si près de l'estrade qu'elle aurait pu toucher le garçon en tendant le bras.
Elle observait le silence depuis que Rain lui avait ramené Seldon. Elle avait regardé la ligne d'écailles argentées sur les pommettes de son fils sans y toucher. Seldon lui avait dit joyeusement que Malta était vivante car le dragon l'avait affirmé. Elle n'avait rien répondu. Et il lui avait pris le bras comme pour la secouer de son rêve.
« Mère, cesse de te chagriner. Tintaglia peut nous ramener Malta. Je sais qu'elle le peut. »«
J'attendrai, » avait-elle dit faiblement. « Pas davantage. » Maintenant, elle levait les yeux vers son fils, comme si elle voyait un fantôme, comme si ce réseau d'écailles l'avait soustrait à son univers. Derrière Kefria venait Rain Houprous. À l'instar de Yanni, il ne se voilait plus. De temps en temps, des gens se retournaient et dévisageaient les marchands des pluies, mais ils étaient tous deux trop préoccupés pour s'en formaliser. Rain était en grande conversation avec Grag Tenira. Il semblait qu'il y ait divergence d'opinion. La discussion, quoique polie, était vive. Ronica espéra qu'il n'en résulterait pas de querelle entre eux ce soir. Terrilville avait besoin du moindre semblant d'unité. Ronica parcourut des yeux l'assemblée si disparate. Elle eut un sourire sardonique. Seldon était toujours son petit-fils. Malgré ses écailles, il restait un Vestrit. Peut-être les altérations de son visage ne seraient-elles pas plus infamantes que les tatouages que d'autres arboreraient sans honte dans la nouvelle ville. Sur l'un des navires dématés pour le dragon, les Chalcédiens avaient entassé des prisonniers de Terrilville, dont beaucoup avaient été déjà tatoués de force, marqués au sceau de leur ravisseur, afin qu'au moment de la vente en Chalcède, chaque propriétaire touche ses bénéfices. Les Chalcédiens avaient abandonné le navire et tenté de fuir sur les galères, mais Ronica doutait qu'ils y aient réussi. Des hommes de Terrilville embarqués sur un radeau de fortune avaient pagayé jusqu'au vaisseau qui donnait de la bande pour secourir leurs parents, tandis que le dragon pourchassait sa proie chalcédienne. Nombreux étaient ceux qui n'auraient jamais imaginé porter un jour un tatouage d'esclave, y compris certains nouveaux marchands. Ronica devinait qu'il pourrait bien changer de politique par réaction. Les gens s'agitaient, inquiets. Quand le dragon avait réapparu après sa chasse aux Chalcédiens, il avait ordonné aux chefs de se réunir en disant qu'il traiterait bientôt avec eux. Le soleil était haut alors. À présent, la nuit tombait et il n'était pas revenu. Ronica reporta le regard vers l'estrade. Il serait intéressant de voir qui tâcherait de rappeler l'assemblée à l'ordre et qui la foule écouterait. Elle crut que Séry allait se réclamer de l'autorité du gouverneur, mais ce fut le marchand Devouché qui s'avança au milieu de l'estrade. Il leva les bras et l'assistance se tut.
« Nous nous sommes rassemblés ici au conseil des marchands. Puisque le marchand d'Huiqueur a été assassiné, je prends sa position comme chef du conseil. Je réclame le droit de parler le premier. »
Il parcourut la foule des yeux, s'attendant à des objections, mais tout le monde garda le silence. Devouché entreprit d'énoncer l'évidence.
« Nous sommes rassemblés ici, nous tous, habitants de Terrilville, pour discuter de ce que nous allons faire au sujet de ce dragon qui est descendu sur nous. »
« Voilà qui est bien inspiré, » songea Ronica.
Devouché n'avait pas fait allusion aux différends qui avaient poussé les gens à se battre. Il attirait leur attention à tous, comme s'il formait une unité sur le problème du dragon. Il poursuivit. Il a chassé la flotte chalcédienne de notre port et poursuivi plusieurs bandes d'envahisseurs. Pour l'heure, il a disparu, mais il a dit qu'il serait bientôt de retour. Nous devons décider comment nous comporter avec lui. Il a libéré notre port. Que sommes-nous prêts à lui offrir en échange ? Il marqua une pause pour reprendre haleine. Mal lui en prit, car une centaine de voix s'élevèrent, apportant une centaine de réponses.
« Rien, nous ne lui devons rien !»
hurla un homme furieux alors qu'un autre déclarait
« Le fils du marchand Ténira a déjà passé un marché avec lui. Grag lui a dit que s'il chassait les Chalcédiens, nous l'aiderions à faire ce qu'il voudrait. Cela paraît juste. Un marchand de Terrilville reviendrait-il sur la parole donnée, même à un dragon ?»
« On devrait lui préparer des offrandes. Le dragon nous a libérés. On devrait offrir une action de grâce à ça qui nous a envoyé son champion. »«
Je ne suis pas marchand, mon frère non plus, et nous ne sommes pas liés par la parole d'un autre. »«
Il faut le tuer. Toutes les légendes sur les dragons parlent de leur perfidie et de leur cruauté. On devrait préparer notre défense au lieu de rester là à discuter. »«
Silence !»
rugit Mingsley, en s'avançant pour se placer à côté de Devouché. Il avait beau être un solide gaillard, sa voix puissante surprit Ronica. Il parcourut la foule du regard, et on lui voyait le blanc des yeux. En réalité, il était terrorisé.
« Nous n'avons pas le temps de nous disputer. Il faut parvenir rapidement à un accord. Quand le dragon reviendra, nous devrons être unis pour l'accueillir. » Ce serait une erreur de lui résister. Vous avez vu ce qu'il a fait à ses navires et à ses hommes. Nous devons l'apaiser si nous ne voulons pas subir le même sort.
Peut-être que certains ici méritent de subir le sort des Chalcédiens.
Intervint Rodkern cyniquement. Il s'approcha menaçant du robuste marchand. Mingsley recula tandis que l'autre se tournait vers l'assistance.
« Quelqu'un l'a dit clairement tout à l'heure. Un marchand a déjà passé un accord avec le dragon. Il est à nous. Il appartient aux marchands de Terrilville. Nous devons honorer notre marché sans avoir recours aux étrangers qui ont cherché à s'emparer de notre ville. Avec le dragon de notre côté, Terrilville peut non seulement refouler ces sales Chalcédiens, mais aussi renvoyer de force les nouveaux marchands et leurs voleurs d'esclaves. Nous avons tous appris les nouvelles. Le gouverneur est mort. Nous ne pouvons pas compter sur l'aide de Jamelia. Marchands, regardez autour de vous. Nous sommes ici dans notre salle en ruine, dans une ville dévastée. Comment en sommes-nous arrivés là? En tolérant parmi nous ces nouveaux marchands cupides, ces gens qui sont venus ici en violation de notre charte pour piller nos terres et nous réduire à la mendicité.
Il appuya le regard sur Mingsley et un rictus de haine crispa ses lèvres. Les yeux étrécis, il proposa
« Comment pouvons-nous nous acquitter envers notre dragon ? En lui procurant à manger ? Que le dragon nous débarrasse de tous les étrangers !»
Ce qui advint alors stupéfia tout le monde. Tandis que s'élevaient des murmures d'indignation, la compagne Cérille s'avança avec résolution. Elle posa sa petite main au creux de la poitrine de Rhodes qui s'était retournée, surpris. Découvrant les dents dans un brusque effort, elle le poussa en arrière. Il ne tomba pas de haut. Il l'aurait aisément sauté s'il n'avait pas été pris de court. Il bascula en poussant un hurlement et en battant des bras. Ronica entendit sa tête heurter le sol et son cri de douleur. Des hommes firent cercle autour de lui et il y eut une brève bousculade.
« Écartez-vous de lui !»
s'écria Cérille. Et Ronica crut un instant qu'elle voulait le défendre.
« Dispersez-vous ou partagez son sort !»
Comme un filet d'eau absorbé dans le sable, les quelques hommes qui avaient essayé d'aider Rhodes reculèrent et se fondirent soudain dans la foule. Il resta seul, solidement maintenu par des marchands, premiers et nouveaux, un bras tordu derrière le dos. La douleur le faisait grincer des dents, mais il réussit à cracher un juron à Cérille. À un signe de tête de la compagne, on l'emmena de force hors de la salle. Ronica se demanda ce qu'ils allaient faire de lui. Cérille redressa brusquement la tête et regarda par-dessus la foule.
Pour la première fois, Ronika vit le visage de la compagne rayonner comme si elle était habitée par un véritable esprit. Elle n'accorda même pas un regard à l'homme qu'elle avait fait tomber. Elle se tenait là, dans toute sa plénitude, maîtrisant provisoirement la situation.
« Nous ne pouvons tolérer un Rothkern, ni ceux qui pensent comme lui, »
déclara-t-elle d'une voix forte.
« Il cherche à semer la discorde alors que l'union est indispensable. Il s'élève contre l'autorité du gouvernorat, comme si le gouvernorat avait succombé avec le gouverneur Kosgo. Vous savez qu'il n'en est pas ainsi. Écoutez-moi, Jean de Terrilleville. À cette heure, peu importe que le gouverneur soit vivant ou non. Ce qui importe, c'est qu'il m'a mandaté pour reprendre la charge du pouvoir au cas où il périrait. Je ne lui ferai pas défaut non plus qu'à ses sujets. Qui que vous soyez, vous demeurez tous sans exception les sujets du gouverneur et le gouvernorat vous dirige. En cela, au moins, vous pouvez être égaux et unis. »
Elle marqua une pause et promena le regard sur les personnes présentes avec elle sur l'estrade.
« Il n'est pas besoin d'aucun d'entre vous. Je suis capable de parler en votre nom à tous. En outre, le traité que je vais conclure avec le dragon vous liera tous également. N'est-ce pas mieux ainsi? Laissez quelqu'un qui n'a pas d'attache personnelle avec Terrilleville parler pour vous tous de façon neutre. »
Elle faillit réussir. Après Rhode, elle paraissait raisonnable. Ronika Vestrit vit le public échanger des coups d'œil. Puis, Dougie a pris la parole depuis l'autre extrémité de l'estrade.
« Je m'exprime au nom des tatoués quand je déclare que nous en avons assez de l'égalité que le gouverneur nous octroie. Maintenant, nous allons créer notre propre égalité, en tant qu'habitants de Terrilleville et non comme sujet de Jamelia. Nous aurons notre mot à dire dans les engagements qu'on prendra avec le dragon. Voici trop longtemps qu'on dispose de notre travail et de notre vie. Nous ne pouvons plus le tolérer. »
« C'est bien ce que je craignais. » intervint Mingsley en pointant un doigt tremblant vers la femme tatouée.
« Vous, les esclaves, vous allez tout gâcher. Vous ne pensez qu'à vous venger. Vous allez sans doute faire tout ce qui est en votre pouvoir pour provoquer le dragon, afin que son courroux s'abatte sur vos maîtres. Mais quand ce sera fini, quand bien même vos maîtres nouveaux marchands viendraient tous à mourir, vous serez les mêmes qu'aujourd'hui. Vous n'êtes pas capable de vous gouverner seul. Vous avez oublié ce que c'est qu'être raisonnable. » Il n'est que de voir la façon dont vous vous êtes conduit depuis que vous avez trahi vos maîtres légitimes et que vous avez abandonné toute discipline. Vous êtes retourné à l'état qui était le vôtre avant que les maîtres ne vous prennent en main. Regarde-toi, Dougia. Tu as commencé comme voleuse, puis tu es devenue esclave. Tu mérites ton sort. Tu as choisi ta vie. Tu aurais dû l'accepter. Mais tous tes maîtres t'ont connue voleuse et menteuse, jusqu'à ce que la carte de ceux que tu as servi s'étende sur ta figure jusqu'au cou. Tu ne devrais même pas te trouver ici, à revendiquer le droit à la parole. Bonnes gens de Terrilleville, les esclaves ne constituent pas un groupe à part, ils portent seulement la marque de leur crime. Autant donner la parole aux prostituées ou aux détrousseurs. Écoutons ces rires. Nous sommes tous jaméliens. Premier nouveau marchand, et nous devrions nous féliciter d'être liés par la parole du gouverneur. Au nom des nouveaux marchands, j'accepte que la compagne Série négocie pour nous avec le dragon. »
Celle-ci se redressa de toute sa taille. Son sourire paraissait sincère. Elle regarda au-delà de Mingsley pour inclure Dougia.
« En qualité de représentante du gouverneur, je négocierai bien sûr pour vous. Pour vous tous. » Le nouveau marchand Mingsley n'a pas suffisamment pesé ses paroles. A-t-il oublié que certains à Terrilleville portent maintenant des tatouages d'esclaves quand leur seul crime a été de se faire capturer par les Chalcédiens? Pour que Terrilleville survive et prospère, il faut en revenir à ses plus anciennes racines. Selon la charte, c'était un endroit où les proscrits ambitieux pouvaient recommencer leur vie et recréer un foyer.
Elle eut un petit rire désarmant.
« Restez ici pour exercer le pouvoir du gouverneur. Je suis en quelque sorte une exilée, moi aussi. Je ne retournerai jamais à Jamelia. Comme vous, je dois devenir citoyenne de Terrilleville et y refaire ma vie. Regardez-moi. Comprenez que j'incarne l'essence même de Terrilleville. Allez !»
exhorta-t-elle d'une voix douce en regardant la foule.
« Acceptez-moi !» Laissez-moi parler en votre nom et nous lier par un accord unanime.
Yanni Rouprou secoua la tête avec regret en s'avançant pour prendre la parole.
Il y en a parmi nous qui ne se satisfont pas d'être liés par la parole du gouverneur ou de qui que ce soit. Seule la nôtre compte. Je m'exprime au nom du désert des pluies. Qu'est-ce que Jamelia a jamais fait pour nous, sinon restreindre notre commerce et voler la moitié de nos bénéfices? Non, compagne Série, vous n'êtes pas ma compagne. Engagez la parole de Jamelia comme il vous plaira, mais le désert des pluies ne tolérera plus votre joug. Nous en savons plus que vous sur ce dragon. Nous ne vous laisserons pas marchander nos vies pour l'apaiser. Mon peuple a voulu que je parle en son nom et je le ferai. Je n'ai pas le droit de vous laisser le bâillonner.
Yanni jeta un coup d'œil vers Reyn. Ronica devina que Yanni et son fils s'étaient préparés à ce moment. Reyn prit la parole au milieu de l'assemblée.
Écoutez-moi, on ne peut pas se fier au dragon. Il faut vous garder de son charme et de ses habiles discours. Je suis bien placé pour en parler, ayant été longtemps trompé par lui, et cette tromperie m'a valu une perte douloureuse. Il est tentant d'admirer sa beauté, de croire qu'il est un être merveilleux et sage, une créature de légende venue pour nous sauver, mais ne soyez pas si crédule. Il voudrait nous persuader qu'il nous est supérieur, qu'il est notre conquérant et notre souverain, simplement en vertu de son existence même. Il n'est pas meilleur que nous. Et pour ma part, je crois qu'il n'est qu'une bête rusée douée de la parole. »
Il haussa la voix pour être entendu de tous.
« On nous a dit qu'il dormait pour digérer. Osons-nous nous demander, digérer quoi? De quoi s'est-il nourri ?»
Après avoir asséné ces mots, il ajouta
« Nombre d'entre nous préféraient mourir plutôt que de redevenir esclave. Eh bien, je préfère mourir plutôt qu'être son esclave ou lui servir de pâture. »
Tout à coup, le monde s'obscurcit. Puis, une bourrasque d'air froid chargée d'une pestilence de reptiles balaya l'assistance. La foule se tassa en tremblant sous l'ombre du dragon avec des cris de terreur et de colère. Certains cherchèrent instinctivement à se réfugier contre les murs, alors que d'autres tâchaient de disparaître au milieu de leurs semblables. L'ombre passa, la lumière déclinante du jour revint, et Ronica sentit la créature atterrir sur le terrain du conseil. L'onde de choc se propagea à travers les pavés et fit vibrer les murs. Quoique les portes soient trop étroites pour lui permettre l'accès, Ronica se demanda si les solides enceintes de pierre résisteraient à l'assaut du dragon.
Il se dressa sur ses membres postérieurs, posa ses pattes antérieures griffues tout en haut du mur.
Sur son cou de reptile, sa tête, de la taille d'une charrette, se baissa pour les regarder. Il renâcla et Reyn Rouprous vacilla sous le souffle de ses naseaux.
« Ainsi, je suis une bête assez rusée pour parler, n'est-ce pas? Et quel titre t'attribues-tu, humain ? Avec tes années dérisoires et ta mémoire tronquée, comment peux-tu prétendre être mon égal ?»
Les gens se pressaient les uns contre les autres pour reculer et faire le vide autour de l'objet du déplaisir de Tintaglia, jusqu'aux diplomates sur l'estrade qui levèrent les bras pour se protéger, comme s'ils redoutaient de partager le châtiment de Reyn. Tous s'attendaient à le voir mourir. D'un mouvement qui provoqua chez Ronica un hoquet de stupeur, Selden sauta légèrement du bord de l'estrade. Il se plaça hardiment bien en vue de Tintaglia, entre son regard furibond et Reyn. Il esquissa une révérence courtoise.
« Bienvenue, reine rayonnante !»
Tous les yeux étaient fixés sur lui.
« Nous nous sommes rassemblés ici comme tu l'as demandé. Nous avons attendu ton retour, maîtresse des cieux, pour apprendre précisément de toi quelle tâche tu désirais que nous accomplissions. »
« Ah, je vois !»
Le dragon leva la tête afin de mieux observer tout son monde. Un tremblement général, une génuflexion involontaire.
« Alors, vous ne vous êtes pas rassemblés pour comploter contre moi ?»«
Personne n'a sérieusement envisagé une chose pareille. »
dit Selden en mentant vaillamment.
« Nous ne sommes peut-être que de simples mortels, mais nous ne sommes pas stupides. qui parmi nous pourrait songer à défier ta grandeur? Nous nous sommes raconté beaucoup d'histoires sur tes valeureux exploits aujourd'hui. Tous ont entendu parler de ton souffle redoutable, du vent de tes ailes, de la force de ta queue. Tous reconnaissent que sans ta glorieuse puissance, nos ennemis nous auraient vaincus. Songe que ce jour aurait pu être ô combien funeste pour nous, car c'est eux qui auraient eu l'honneur de te servir.
À qui Selden s'adresse-t-il? Se demandait Ronica. Flattait-il le dragon, ou ses paroles étaient-elles destinées à rappeler à l'assemblée que d'autres hommes le serviraient tout aussi bien? Les habitants de Terrilville pouvaient être remplacés. Peut-être le seul moyen de survivre était-il de proclamer qu'il la servirait spontanément. Les grands yeux argentés de Tintaglia tournoyèrent avec ardeur à la flatterie de Selden. Ronica plongea dans leur tourbillon et se sentit attirée. Cette créature était véritablement magnifique. Les écailles qui se chevauchaient sur sa figure évoquaient pour Ronica les maillons d'une chaîne finement ouvrée.
Tintaglia considérait la foule et sa tête oscillait doucement. La marchande se sentit prise par ce balancement. Elle était incapable de se détacher du spectacle. Le dragon était à la fois bleu et argent. Chaque mouvement faisait apparaître sur les écailles tantôt l'une, tantôt l'autre couleur. Son col ployé avait la grâce d'un cygne. Ronica éprouva l'irrésistible désir de le toucher pour savoir si la peau onduleuse était tiède ou froide. Autour d'elle, les gens se rapprochaient furtivement du dragon, en extase devant sa beauté. Elle sentit en elle décroître l'attention. Elle était lasse, mais d'une saine lassitude, comme au terme d'une journée bien remplie.
« Ce que j'exige de vous est simple, » dit doucement Tintaglia. « Les humains ont toujours été des bâtisseurs et des terrassiers. Il est dans votre caractère de façonner la nature à vos propres fins. Cette fois, vous allez façonner le monde selon mes besoins. Il y a un endroit dans le désert des pluies où les eaux sont peu profondes. Je désire que vous alliez là-bas et que vous creusiez le lit du fleuve assez profond pour qu'un serpent de mer puisse y passer. C'est tout. Vous comprenez ?
La question parut les délivrer de leur mutisme. Il y eut des murmures de surprise. C'était tout ce qu'ils demandaient ? Une chose aussi simple ?
Alors, du fond de la foule, un homme s'écria :
« Pourquoi ? Pourquoi veux-tu que les serpents puissent remonter le fleuve des pluies ?»«
Ce sont les jeunes des dragons, »
répondit calmement Tintaglia.
« Ils doivent remonter le fleuve jusqu'à un certain endroit pour faire leur cocon et éclore en vrais dragons. Jadis, il y avait un emplacement favorable près de la cité de Troinous, mais les marais ont englouti les berges tièdes et sablonneuses. En amont, il y a encore un site qui pourrait convenir. Si les serpents avaient la possibilité de l'atteindre. »
Ses yeux tournoyèrent pensivement.
Il faut veiller sur eux pendant qu'ils sont dans leur cocon. Vous devrez les protéger des prédateurs durant l'hiver, pendant leur métamorphose. C'est une tâche que les anciens et les dragons se partageaient autrefois. Les anciens ont construit leur cité non loin de nos lieux de nidification, pour être mieux à même de veiller sur nos cocons jusqu'à ce que le printemps apporte la lumière nécessaire à l'éclosion. Si la cité des anciens n'avait pas été si proche du lieu de nidification, je n'aurais pas été sauvé. Vous pouvez bâtir là où vivaient les anciens jadis.
« Dans le désert des pluies ?»
demanda quelqu'un avec un scepticisme horrifié.
« L'eau est acide. Seule l'eau de pluie est potable. La terre tremble en permanence. Les gens qui vivent trop longtemps au désert des pluies deviennent fous. Leurs enfants sont mort-nés ou mal formés et, en vieillissant, ils deviennent monstrueux. Tout le monde sait ça. »
Le dragon émit un bizarre bruit de gorge. Ronica sentit tous ses muscles se crisper, puis elle finit par comprendre de quoi il s'agissait. C'était un rire.
Les humains peuvent vivre près du fleuve du désert des pluies. Troanus en est la preuve. Mais avant Troanus, longtemps avant, il y avait de merveilleuses cités sur les rives du fleuve. Il est possible d'en reconstruire. Je vous montrerai comment rendre l'eau potable. La terre a reculé. Vous devrez vivre dans les arbres, comme ils le font à Troanus. On n'y peut rien.
Ronica eut l'impression d'un étrange fourmillement dans sa tête. Elle cligna des yeux. Quelque chose. Ah, voilà ce qui avait changé. Le dragon avait reporté son regard dans une autre direction. Elle se sentit plus alerte. Elle se promit de se méfier davantage du regard paralysant du dragon. Alors, depuis l'estrade, Yaniruprou eut l'audace de s'adresser à Tintaglia. Bien que sa voix tremblât, une détermination de fer perçait dans ses paroles.
« En effet, on peut vivre au désert des pluies, mais il faut en payer le prix et être qualifié pour cela. Nous en sommes l'illustration. Le désert des pluies est la province des marchands des pluies. Nous n'accepterons pas qu'elle nous soit enlevée. »
Elle s'interrompit et prit une respiration hachée.
« Personne, sauf nous, ne sait comment subsister à côté du fleuve, comment construire dans les arbres, ni comment supporter les saisons de folie. La cité enterrée que nous avons exploitée pour notre commerce est perdue pour nous maintenant. Nous devons trouver d'autres moyens d'existence. Néanmoins, le désert des pluies est notre pays. Nous ne le céderons pas. »
« Alors vous devrez vous charger de la surveillance d'hiver, »
répondit posément le dragon en penchant la tête.
« Vous êtes plus apte à cette tâche que vous ne le croyez. »
Manifestement, Yanni fit appel à toute sa volonté.
« Peut-être pouvons-nous faire cela, sous certaines conditions. »
Elle jeta un regard sur l'assemblée. Avec une assurance nouvelle, elle ordonna
« Qu'on allume les torches. Il va falloir un certain temps pour régler les détails. »«
Pas longtemps, j'espère, »
avertit le dragon. Yanni ne se laissa pas démonter.
« Pour cette besogne, il ne suffit pas d'une poignée d'hommes avec des pelles. Il faudra des constructeurs et des ouvriers de Terrilville pour nous aider à approfondir le chenal. » Il faudra des plans, beaucoup de bras. La population de Troanus ne suffira pas à une tâche de si grande ampleur.
La voix de Yanni s'affermissait et prenait des intonations de négociatrice. Dans ce domaine, elle était à son affaire.
Il y aura des difficultés à surmonter, bien sûr, mais les habitants des pluies sont habitués aux épreuves. Il faudra nourrir et loger les ouvriers. Il faudra importer les denrées alimentaires, et pour cela nous avons besoin de nos vives-nefs, comme le Kendri qu'on nous a prise. Tu nous aideras bien sûr à la récupérer, et à protéger le fleuve des Chalcédiens de façon que les vivres et le matériel puissent transiter librement. »
Le dragon plissa légèrement les yeux.
« Bien sûr, »
dit-il avec un peu de raideur.
« Voilà qui vous satisfait, j'espère. »
On alluma les torches dans la salle sans toit. Il semblait que leur éclat assombrit encore le ciel. Le froid descendait sur la foule. Dans la lumière des flambeaux, les haleines flottaient et les gens se rapprochaient les uns des autres pour se réchauffer. La nuit aspirait la tiédeur du jour bref, mais personne ne songeait à partir. Le marchandage, c'était la force vive de Terrilville, et l'affaire était trop considérable pour qu'on en manquât les prémices. Une voix d'homme transmettait le déroulement des négociations à ceux qui attendaient dehors. Yanni fronça ses sourcils squameux.
« Il faudra construire une seconde ville, près de ce lieu de nidification dont tu as parlé. Cela va prendre du temps. »«
Nous n'en avons pas du temps, »
déclara le dragon avec impatience.
« Il est essentiel que ce travail commence aussitôt que possible, avant que d'autres serpents ne périssent. »
Yanni haussa les épaules en signe d'impuissance.
« Si le temps presse, alors nous aurons besoin de nombreux ouvriers. Peut-être même faudra-t-il en faire venir de Jamelia. On devra les payer, et l'argent, d'où viendra-t-il »
De l'argent payé ?
Demanda le dragon en s'emportant tout à coup.
Dougia s'avança soudain sur le devant de l'estrade, à côté de Yanni.
Il n'y a pas besoin d'aller à Jamelia pour chercher des ouvriers. Mes semblables sont ici. Les tatoués ont été emmenés ici pour travailler sans être payés. Certains sont prêts à aller là-bas et à faire ce travail, pas pour de l'argent, mais pour un peu d'espoir. L'espoir d'avoir un foyer et un avenir bien à eux. Pour commencer, donnez-nous abri et nourriture. Nous travaillerons pour gagner notre vie.
Yanni se tourna pour lui faire face. Une formidable espérance rayonnait sur le visage de la marchande des pluies. Lentement, distinctement, elle exposa les termes du marché.
Pour venir au désert des pluies, vous devrez appartenir au désert des pluies. Vous ne pouvez vivre à l'écart de nous.
Elle plongea son regard dans le regard de Dougia. Mais la tatouée ne se détourna pas à la vue des écailles de Yanni et de ses yeux de braise. La marchande sourit, puis elle revint vers l'assistance. Elle paraissait considérer les tatoués sous un jour nouveau.
Vos enfants devront se marier avec les nôtres. Vos petits-enfants seront des habitants du désert des pluies. Quand on vient s'installer chez nous, on ne peut plus en partir. Vous ne pouvez vivre séparément ni différemment. Et la vie n'y est pas facile. Beaucoup mourront. Vous saisissez bien ce que vous proposez ?
Dougia se racla la gorge. Yanni se retourna vers elle. L'esclave soutint son regard sans sourciller.
Vous dites que nous devons appartenir au désert des pluies. Marchand du désert des pluies, c'est ainsi que vous vous appelez. C'est ce que nous deviendrons ? Des marchands ? Avec les droits des marchands ?
Ceux qui épousent des marchands deviennent eux-mêmes marchands. Mêlez vos familles aux nôtres et les vôtres deviendront nôtres.
Nous aurons nos maisons ? Ce que nous aurons acquis sera à nous ?
Bien sûr. Dougia regarda par-delà la foule, cherchant des yeux les groupes de tatoués.
C'est ce que vous voulez, vous me l'avez dit. Un foyer, des biens que vous pourrez transmettre à vos enfants, vivre sur un pied d'égalité avec vos voisins. C'est ce que nous proposent les marchands du désert des pluies. Et ils nous avertissent honnêtement des épreuves à venir. J'ai parlé en votre nom, mais chacun doit décider pour soi.
Parmi les tatoués, une voix s'éleva.
Et si nous ne voulons pas aller au désert des pluies?
Alors quoi?
Seri s'avança.
En qualité de représentante du gouvernorat, je déclare que dorénavant, il n'y aura plus d'esclaves à Terrilville. Les tatoués sont les tatoués, ni plus ni moins. Ce serait une violation de la charte originelle des marchands que d'élever les tatoués au rang des marchands. Je ne puis faire cela. Mais je puis décréter qu'à l'avenir, conformément aux lois originelles de Terrilville, le gouvernorat de Jamelia ne reconnaîtra pas l'esclavage et ne recevra pas les réclamations des propriétaires d'esclaves.
Elle baissa la voix de manière théâtrale.
Tatoué, vous êtes libre.
Nous l'avons toujours été,
s'écria quelqu'un dans la foule, gâchant ainsi pour Seri la solennité du moment.
Mingsley fit une dernière tentative pour sauver la force de travail de ses semblables.
Mais les serviteurs sous contrat, c'est tout autre chose, certainement.
Et il fut réduit au silence, non seulement par les cris de la foule, mais par le rugissement du dragon.
Assez ! Réglez ces menus détails entre vous. Peu m'importe comment vous colorez votre peau et comment vous vous appelez, du moment que le travail est fait.
Il regarda Yanni Rupprous.
Vous pouvez faire appel aux constructeurs et aux architectes de Terrilville. Vous avez la force de travail. Moi-même, je m'envolerai demain pour délivrer le Kendry, trouver les autres vivnefs et vous les renvoyer. Je m'engage à dégager les eaux entre Troisnousses et Terrilville des navires ennemis pendant que vous accomplissez le travail. Maintenant, nous sommes d'accord, n'est-ce pas ?
Le ciel était noir. Le dragon était d'une essence étincelante, bleue et argent. Il attendait leur assentiment. Et sa tête oscillait doucement au-dessus d'eux.
La lumière vacillante des torches caressait sa forme fabuleuse. Ronika eut l'impression de se trouver dans un conte merveilleux et d'être témoin d'un grand miracle. Les problèmes qui demeuraient paraissaient soudain mesquins, ne valant pas d'être discutés. Tintaglia n'avait-elle pas souligné la brièveté de leur vie? Assurément, ce qui se passait durant le temps d'un battement de paupières n'avait guère d'importance. Aider Tintaglia à ramener les dragons dans le monde, c'était peut-être la garantie que leur vie ait produit quelque effet sur l'univers. Un soupir d'approbation parcourut la foule. Ronika elle-même acquiesça d'un lent hochement de tête.
« Malta !»
dit Kefria à mi-voix à côté d'elle. Le mot troubla Ronika. Le silence était tel dans la salle que le son résonna comme un caillou lancé dans une mare. Quelques têtes se tournèrent. Kefria respira profondément et articula d'une voix plus forte.
« Malta !»
Le dragon les considéra d'un regard rien moins qu'amène.
« Qu'est-ce ? »
demanda-t-il. Kefria s'avança, la démarche agressive.
« Malta !»
cria-t-elle.
« Malta, ma fille ! On m'a dit que tu l'avais entraînée à sa perte. Et maintenant, par quelque magie perverse, mon fils, mon dernier enfant est là, à chanter tes louanges. Les gens murmurent et sourient à ta vue comme des bébés fascinés par un hochet qui brille. »
À ces mots, Ronika se sentit étrangement agitée.
Comment Kefria osait-elle parler sur ce ton à cet être bienveillant, superbe, qui avait sauvé Terrilville ? Lui, responsable de la mort de Malta ? Ronika était toute désorientée, comme si elle s'éveillait d'un profond sommeil. « Mes mères !»
commença Selden d'une voix implorante en lui prenant le bras.
Elle écarta fermement son fils pour le mettre hors d'atteinte et continua à parler. L'indignation croissante qu'elle éprouvait devant la façon dont le dragon avait manipulé la foule avait fait craquer la glace de son cœur. Elle déversa sa fureur avec son chagrin.
« Je ne succombe pas à ton charme. Je réfléchis en réalité à la manière dont je pourrais me venger. S'il est inimaginable que je ne sois pas en adoration devant toi qui as laissé mourir ma fille, alors il vaut mieux que tu me tues maintenant. Souffle sur moi, fais fondre ma chair. » Si ma mort avait au moins le mérite d'ouvrir les yeux de mon fils sur ta vraie nature, les yeux de ceux qui sont prêts à ramper devant toi !»
Elle cracha ses derniers mots et balaya la foule du regard.
« Vous avez refusé d'écouter Reinrupus. Regardez maintenant, voyez la vraie nature de cette créature !»
Le dragon retira la tête en arrière. Ses yeux argentés, légèrement luminescents, évoquaient de pâles étoiles. Il ouvrit tout grand les mâchoires, mais Kefria avait enfin retrouvé son courage. Frappé d'horreur, Selden fixait tour à tour sa mère et le dragon. Elle fut bouleversée de constater qu'il semblait incapable de choisir, mais elle ne fléchit pas. Les autres reculèrent en masse et s'écartèrent de Kefria, tandis que le dragon aspirait de l'air. Alors Ronika s'avança en se frayant un chemin pour rejoindre sa fille. Elle lui prit le bras. Ensemble, elles toisèrent la créature qui avait ravi la vie de Malta et le cœur de Selden. Kefria recouvra l'usage de la parole.
« Rends-moi mes enfants, ou donne-moi la mort !»
Surgit de nulle part, Rain se précipita, fondit sur elle et les écarta brutalement. Kefria chancela, tomba à genoux et Ronika s'effondra près d'elle. Elle entendit le cri d'horreur de Yanniropous depuis l'estrade. Le jeune homme se tenait seul à présent devant le dragon.
« Fuyez !»
ordonna-t-il. Puis il fit volte-face, le visage crispé de fureur.
« Tintaglia !»
rugit-il.
« Arrête !»
Il avait une épée nue à la main. Chose étonnante, le dragon se figea, les mâchoires toujours béantes. Une goutte de liquide qui perlait sur l'une de ses innombrables dents tomba sur les dalles de la salle. La pierre grésilla et se creusa. Mais ce n'était pas Rain qui avait arrêté le dragon. C'était Selden. Il s'était avancé tranquillement et avait tendu le cou vers Tintaglia. Ses paroles, ses gestes mirent du baume au cœur de Kefria.
« Je t'en prie, ne leur fais pas de mal !»
supplia le garçon d'une voix suraiguë, ses manières de courtisan envolées.
« Je t'en prie, c'est ma famille qui m'est aussi chère que la tienne t'est chère. Tout ce que nous voulons, c'est retrouver ma sœur. Toi qui es si puissante, ne peux-tu nous accorder cela? Ne peux-tu nous la ramener?
Rain saisit Selden aux épaules et le poussa vers sa mère. Kefria le tint contre elle dans un silence hébété.
Son fils, c'était vraiment son fils à elle, même avec les écailles sur son visage.
Elle le serra contre elle et sentit la main de sa mère qui lui pressait le bras. Les Vestrites étaient solidaires, quoi qu'il advienne.
« Personne ne peut ramener les morts, Selden !»
dit Rain brutalement.
« Il est inutile de lui demander cela. Malta est morte !»
Il rejeta la tête en arrière pour faire face au dragon, et à la clarté trompeuse des torches qui dansaient sur son visage écailleux, on aurait dit qu'il ressemblait à Tintaglia.
« Kefria a raison. Je ne me laisserai pas séduire. Qu'importe ce que tu peux faire pour Terrilville, on doit te démasquer, afin que les autres ne succombent pas à tes artifices. »
Il se tourna vers la foule et ouvrit grand les bras.
« Écoutez-moi, citoyens de Terrilville. Elle vous a ensorcelé. Vous ne pouvez pas vous fier à cette créature, ni la croire. Elle ne tiendra pas parole. À l'heure qu'il lui plaira, elle se dédiera de ses engagements et prétendra qu'un être de sa stature ne saurait être lié par des accords passés avec ces humains insignifiants que nous sommes. Aidez-la, et vous ramènerez à la vie une race de tyrans. Résistez-lui aujourd'hui, tant qu'elle est seule !»
Tintaglia rejeta la tête en arrière et poussa un rugissement de dépit qui dut sans doute ébranler jusqu'aux étoiles. Kefria se ratatina, mais le groupe ne battit pas en retraite. Le dragon leva ses pattes antérieures du rebord du mur et les reposa avec fracas. Sous le choc, une énorme lézarde courut le long de la pierre.
« Tu me fatigues !»
siffla Tintaglia à l'adresse de Rain.
« Je mens, dis-tu. Tu empoisonnes les esprits contre moi avec tes paroles venimeuses. Je mens, je manque à ma parole. C'est toi qui mens. Regarde-moi dans les yeux, humain. » Et apprends la vérité. »
Elle pointa vers lui sa grande tête, mais Rey ne broncha pas. Ronica, qui étreignait les épaules de Kefria, essaya de la tirer en arrière, mais celle-ci ne bougea pas d'un pouce. Elle rattrapa Selden qui cherchait à se rapprocher du dragon. La scène se figea, allégorie de la peur et du désir. Alors Kefria entendit Rey halter puis retenir son souffle. Il était pétrifié par le tournoiement vif-argent des yeux du dragon. Il pencha en avant, les muscles saillants, comme s'il résistait à une force prodigieuse. Elle tendit le bras pour le retenir, mais il était devenu de pierre. Il remuait les lèvres sans proférer aucun son. Subitement, les yeux argentés s'immobilisèrent. Rain s'affaissa comme une marionnette dont on a coupé les fils. Il resta étendu, sans bouger, sur les dalles froides. Rain ignorait que Tintaglia pouvait l'atteindre aussi facilement. Alors qu'il la regardait dans les yeux, il la sentit et l'entendit à l'intérieur de sa tête.
« Petit homme sans foi !»
dit-elle sur un ton cinglant.
« Tu me mesures à ton aune. « Je ne t'ai pas trahi. Tu m'en veux parce que tu n'as pas pu retrouver ta femelle, mais j'ai déjà tenu parole. Je n'ai pas pu sauver ta Malta. J'ai fait mon possible, ensuite je t'ai laissé résoudre le problème. Tu as échoué. Ce n'est pas ma faute et je ne mérite pas d'être insulté pour cela. C'est toi qui as échoué, petit mâle. » Et je n'ai pas menti. Ouvre-toi. Entre en contact avec moi et reconnais que je dis la vérité. Malta est vivante.
Deux fois déjà, il avait communiqué par la pensée avec Malta. Dans l'intimité mystique de la boîte à rêves, grâce à la poudre de bois sorcier, leurs esprits s'étaient mêlés. Ils avaient fait un beau rêve ensemble. Le souvenir lui échauffait encore le sang. Dans l'union de la boîte à rêves, il l'avait connue, sans méprise possible. Au-delà de l'odeur, du contact même du goût des lèvres de Malta, il identifia une autre sensation qui était l'essence même de sa bien-aimée.
Tintaglia s'empara de son esprit.
Il était pris, qu'il le veuille ou non. Il lutta jusqu'au moment où il aperçut dans le dragon une autre présence. Aussi légère qu'un parfum dans l'air, une sensation rare et pourtant familière l'effleura. Malta. Il la sentit à travers le dragon, mais ne put l'atteindre. C'était aussi rageant que s'il entrevoyait sa silhouette sur un rideau agité par le vent, respirait son odeur ou respirait la tiédeur de sa joue sur un oreiller qu'elle venait de quitter. Il se pencha, rempli d'un désir ardent, mais ne trouva rien de tangible. Il saisit les efforts que faisait Tintaglia pour débrouiller le fil de Malta d'un écheveau de sensations. Tantôt il était solide et net, tantôt il se dissolvait dans des souvenirs de vent, de pluie et d'eau saline.
« Où est-elle »
demanda-t-il affolé à Tintaglia.
« Comment va-t-elle ? »
« Je ne peux pas le savoir par ce sens-là, » répliqua le dragon avec dédain. « Autant flairer un bruit ou goûter la lumière, il s'agit d'un lien sympathique qui n'est pas fait pour unir humain et dragon. Tu n'as pas la faculté d'y répondre, et donc elle n'a pas conscience de ton désir. Je peux seulement t'affirmer qu'elle vit quelque part, tant bien que mal. Tu me crois maintenant ? »
Je crois que Malta est vivante. Je crois qu'elle vit. Elle vit. Rain murmura ces mots d'une voix enrouée par l'angoisse ou l'émerveillement, c'était difficile à dire. Yanni était descendue de l'estrade et avait fendu la foule pour s'agenouiller près de son fils. Maintenant, elle fixait Selden par-dessus le corps de Rain.
« Qu'est-ce qu'il lui a fait ? »
s'écria-t-elle. Kefria les observait tous les deux. Yanni savait-elle à quel point elle rappelait le dragon ? Les fines écailles sur ses lèvres et son front, le faible rougeoiement de ses yeux dans la lueur des torches ajoutaient à l'illusion. À genoux, les yeux baissés sur son fils, Yanni le dévisageait tout comme Tintaglia les regardait, eux. Comment la marchande qui ressemblait à ce point au dragon pouvait-elle poser la question ? Selden s'agenouilla à son tour, mais il contemplait d'un air extasié la créature fabuleuse qui se dressait au-dessus d'eux. Il remuait les lèvres comme s'il priait, mais il gardait les yeux rivés à Tintaglia.
« Je ne sais pas, »
répondit Kefria à la place de son fils. Elle baissa le regard sur le touchant fiancé de Malta. Lui aussi ressemblait au dragon, mais il avait été prêt à risquer sa vie pour sauver celle de sa fille. Son cœur à lui était aussi humain que celui de Kefria. Elle jeta un coup d'œil à son fils qui considérait le dragon avec tant d'intensité. La lumière jouait sur les squames de Selden. Lui aussi s'était dressé devant Tintaglia, l'avait supplié d'épargner sa famille. Il était toujours son fils à elle. Bizarrement, Rain aussi était son fils. Kefria lui posa doucement la main sur la poitrine.
« Restez tranquille, ça va aller, restez tranquille. »
Au-dessus d'eux, le dragon rejeta la tête en arrière et trompeta triomphalement.
« Il me croit !» « Vous voyez, gens de Terrilleville, je ne mens pas. Venez, scellons ce marché et que demain commence une vie nouvelle pour nous tous. »
Yanni se releva brusquement.
« Je ne suis pas d'accord. Pas de marché qui tienne tant que je ne saurai pas ce que tu as fait à mon fils. »
Tintaglia jeta un regard indifférent à Rain.
« Je l'ai éclairé, marchand Rouprous. C'est tout. Il ne doutera plus de moi. »
Rain saisit le poignet de Kefria dans sa main écailleuse et plongea ses yeux dans les siens.
« Elle vit, »
affirma-t-il farouchement.
« Malta est réellement vivante. J'ai été en contact avec elle, à travers le dragon. »
À côté d'elle, Ronica laissa échapper un sanglot. Kefria ne reprenait pas espoir. Était-ce vrai ? Était-ce une ruse du dragon ? Le blanc des yeux cuivrés de Rain se mit à luire tandis qu'il se rasseyait avec peine. Le souffle entrecoupé, il dit à voix basse.
« Passe le marché que tu veux avec Terrilleville, Tintaglia, mais auparavant nous allons conclure notre accord à nous. »
Il baissa encore le ton. « Car tu m'as fourni le dernier mot de l'énigme. » Il leva la tête pour la scruter hardiment.
Les autres, des dragons comme toi, peuvent encore survivre.
À ces mots, Tintaglia se pétrifia, les yeux baissés vers Rein. Elle tordit le cou d'un air interrogateur.
Oh!
Avant qu'il ait pu répondre, Mingsley était descendu de l'estrade pour se couler entre lui et le dragon.
Ce n'est pas juste!
Clama-t-il.
Citoyens de Terrilleville, écoutez-moi! Le désert des pluies doit-il parler en notre nom? Non! Cet homme aurait le droit d'interrompre notre négociation pour une affaire de cœur? Bien sûr que non!
Selden s'avança.
Une affaire de cœur? Il s'agit de la vie de ma sœur!
Il reporta son regard sur le dragon.
Elle m'est aussi chère qu'un serpent est cher, Tintaglia. Crois-moi, montre-leur à tous que tu considères le désir de ma famille comme aussi pressant que l'instinct qui te pousse à sauver ton espèce.
Silence!
Elle baissa brusquement la tête. D'une petite bourrade, elle envoya rouler Mingsley sur le côté. Ses yeux se fixèrent sur Aine.
D'autres dragons? Tu les as vus?
Pas encore, mais je pourrai les trouver,
répondit-il. Un pâle sourire joua sur ses lèvres, mais son regard était grave et dur.
À condition que tu fasses ce qu'a dit Selden. Prouve que tu juges notre affaire de famille aussi importante pour nous que la tienne l'est pour toi.
Elle releva subitement la tête. Ses naseaux se dilatèrent et ses yeux tournoyèrent follement. Elle dit comme pour elle-même.
Les trouver? Où?
Rein sourit.
Je n'ai pas peur de te le dire. Il faudra que des hommes travaillent pour les déterrer. Si les anciens ont mis des cocons à l'abri dans une cité, peut-être ont-ils fait de même dans une autre. C'est un marché équitable, n'est-ce pas? Ramène-moi mon amour, et je m'efforcerai de sauver les éventuels survivants de ta famille.
Les naseaux du dragon se dilatèrent davantage. Le flamboiement de ses yeux s'accentua. Dans son émoi, il cingla de la queue. Dehors, on entendit les cris d'effroi des spectateurs. Mais à l'intérieur, Rein ne bougea pas au bord du triomphe. Tout autour de lui, les gens étaient figés dans un silence attentif.
« Marché conclu !»
rugit Tintaglia. Ses ailes tressaillirent et frémirent. Elles bruissaient, follement impatientes de prendre leur essor. Elles brassèrent l'air froid de la nuit qui monta en murmurant au-dessus des gens blottis les uns contre les autres dans le bâtiment décapité.
« Les autres feront des plans pour draguer le fleuve. Toi et moi partirons à la première heure à la recherche des anciennes ruines. »«
Non !»
La réponse de Rein était calme, mais le rugissement indigné du dragon résonna dans le ciel nocturne. Des gens poussèrent des cris de terreur, se mirent à trembler, mais Rein, dressé de toute sa taille, resta impavide, tandis que Tintaglia exhalait sa fureur.
« Malta d'abord »
décréta-t-il posément alors qu'elle reprenait haleine.
« Allez chercher ta femelle alors que les miens sont enfermés dans le froid et dans le noir, non !»
Cette fois, l'explosion de colère fit vibrer le sol sous les pieds de Kefria. Les oreilles lui tintèrent.
« Écoute-moi bien, dragon !»
reprit Rein calmement.
« Le plein été !» C'est la saison idéale pour explorer et creuser quand les eaux du fleuve sont basses. Maintenant, c'est le moment pour nous de partir à la recherche de Malta.
Alors que Tintaglia rejetait la tête en arrière, mâchoire béante, il poursuivit en criant.
« Si nous voulons réussir, nous devons négocier en égo, sans menace. Veux-tu te calmer, ou faut-il que nous vivions tous les deux dans le chagrin ?»
Elle baissa la tête. Ses yeux tournèrent furieusement, mais sa voix était presque courtoise.
« Continue !»
Rein reprit son souffle.
« Tu vas m'aider à sauver Malta. Et je me consacrerai alors à fouiller la cité des anciens, non plus pour exhumer des trésors, mais des dragons. C'est notre accord. Ton marché avec Terrilleville est plus compliqué. Le dragage du fleuve en échange de la protection de la côte, avec d'autres réserves. » « Veux-tu qu'on le mette par écrit sous la forme de contrat obligatoire ?»
Rein reporta les yeux sur Devouché.
Je suis prêt à m'engager sur parole. Le conseil de Terrilville veut-il agir de même ?
Sur l'estrade, Devouché jeta autour de lui des regards indécis. Kefria supposa qu'il était ébranlé de se voir remettre l'affaire en main. Et il se redressa lentement. Chose surprenante, il secoua la tête.
« Non. Ce qui a été proposé ce soir va changer la vie de chacun ici. »
Il promena un regard grave sur la foule muette.
« Un accord de cette importance doit être écrit et signé. En outre, je propose qu'il soit signé non seulement par nos chefs, mais par chaque marchand et chaque membre de famille marchande, comme nous le faisions autrefois, et que tous ceux, jeunes ou vieux, désirant rester à Terrilville, apposent leur marque sur le document. Les signataires s'engageront envers le dragon, mais aussi solidairement. »
Un murmure parcourut l'assemblée. Devouché poursuivit.
« Tous ceux qui apposeront leur marque acceptent d'être liés par les anciennes règles. En échange, chaque chef de famille obtiendra le droit de vote au conseil, comme c'était le cas jadis. »
Il regarda autour de lui, y compris les chefs sur l'estrade.
« Tous doivent accepter que les jugements du conseil prévaudront. Ensuite, je pense, il faudra voter pour élire de nouveaux membres du conseil, pour s'assurer que chaque groupe obtient voix au chapitre. »
Il reporta les yeux sur le dragon.
« Toi aussi, tu dois apposer ta marque pour signifier ton accord. Ensuite, le Kendri devra nous être rendu et les autres vivnefs rappelés, car sans elles, on ne pourra transporter ni ouvriers ni matériel en amont du fleuve. Ensuite, tu devras examiner avec nous les chartes, nous aider à marquer les limites du fleuve que nous ne connaissons pas et nous montrer l'endroit où il faut approfondir son lit. »
Les gens hochaient la tête, mais le dragon renâcla de dégoût.
« Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ces écritures et ces marques. Considère que l'affaire est entendue et commençons dès ce soir. »
Rein intervint.
« Il vaut mieux faire vite. Là-dessus, nous sommes d'accord. Laisse-les coucher tout cela sur le papier. Entre toi et moi, je te donne ma parole et je suis prêt à accepter la tienne. »
Il respira. Il reprit d'un ton solennel.
« Dragon Tintaglia, le marché est-il conclu ?»«
Marché conclu, » répondit-elle gravement.
Elle regarda Devouché et les autres présents sur l'estrade.
« Prenez la plume et faites vite. Je suis lié par mon nom, non pas par une marque. Demain, Tintaglia commence ce qu'elle a promis. Veillez à être aussi prompt à tenir parole. »